Conversation sur la mort, Christian de Cacret.
Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition des Conversations sur la mort et donc sur la vie. J'accueille aujourd'hui une addictologue, psychologue clinicienne, spécialiste d'alcoolologie, 40 ans à l'assistance publique hôpital Bichat, aujourd'hui en activité libérale, mais aussi formatrice auprès de médecins. Micheline Clodon, bonjour.
Bonjour.
Votre vie, Micheline Clodon, est marquée par la présence de la mort, celle d'abord de votre époux, Patrick, qui est décédé il y a 25 ans, alors que vous attendiez votre second enfant, mais aussi, sans doute, vous allez nous le dire, par la mort de ces patients qui, malgré votre accompagnement, n'ont pu surmonter cette dépendance mortifère au point d'en être décédé. Alors, ce sera ma première question, Micheline Clodon. Est-ce que il y a effectivement dans votre existence une forme de résonance entre cette expérience fondatrice du deuil de votre époux et votre combat pour sauver des êtres contre une addiction qui, pour un certain nombre d'entre eux, les mène à une mort certaine?
Merci. Sans aucun doute, il y a une résonance. En premier lieu, parce que mon mari était médecin généraliste et avait été praticien de l'alcoolologie également. Et donc, nous partagions ce souhait commun, finalement, de venir rejoindre les personnes qui ne formulent pas de demande de soins. On avait ce projet de sa place de médecin généraliste et moi, d'addictologue, de voir à quel point cette important de pouvoir aller rejoindre la personne là où elle en était. Quand mon mari est décédé, finalement, j'ai eu le souci qui avait été celui de notre couple de profiter de chaque petit instant et en rencontrant ces patients victimes de la dépendance à l'alcool, finalement, j'ai pu me rendre compte à quel point toutes ces personnes, au fur et à mesure de ces années, étaient tellement amoureuses de la vie qu'au fond, si elles consommaient, c'était davantage parce que la vie n'était pas aussi belle qu'elles le rêvaient que dans un désir de mort.
Donc on ne peut pas dire de l'alcoolisme qu'il correspond à une pulsion de mort, c'est ça que vous venez nous dire?
Je ne le pense vraiment pas. 40 ans de clinique alcoolologique m'ont montré à quel point ces personnes, finalement, c'est presque comme si la vie matérielle, et Marguerite Duras en a beaucoup écrit sur le sujet, n'était pas assez grande. Il fallait une dimension supplémentaire que moi, aujourd'hui, je nomme dimension spirituelle et que les patients, finalement, expriment, même s'ils ne nomment pas de cette façon-là.
Vous avez évoqué une forme de, je ne sais pas si c'est le bon mot, de partenariat avec votre époux qui, manifestement, s'est prolongé dans votre vie au-delà de sa mort.
Ah, très clairement, moi j'ai eu le sentiment à maintes reprises qu'il m'accompagnait, à la fois qu'il m'accompagnait sur les décisions fondamentales sur la vie de nos enfants, puisque en effet j'attendais une petite fille, mais j'avais déjà un petit garçon de 1 an, et qu'à chaque fois que j'ai eu des décisions importantes à prendre, finalement je les ai confiées et une décision s'est imposée à moi. Et dans la vie professionnelle, finalement, ce partage de notre idéal a été, je dirais, a été en croissance au fur et à mesure des années.
Comment est-ce que Antoine et Inès, avec le recul de ces 25 années, se sont construits dans le deuil?
Alors, quand mon mari est décédé, j'ai été évidemment révoltée. Je ne comprenais pas au nom de quoi je devais subir. Et j'étais très accompagnée par un prêtre notamment, mais beaucoup d'amis. Et notamment ce prêtre m'a dit que j'avais le droit d'être en colère, mais que c'était peut-être pas une très bonne idée d'élever des enfants dans la colère. Et à un moment donné, ça s'est assez vite imposé à moi qu'en effet, je leur ai présenté la disparition de leur papa comme étant allé au ciel et qu'il allait les protéger toute leur vie. Donc il y avait aucun tabou sur sur le fait que leur papa était mort et on en parlait. Et je ne sais pas si j'ai le temps, mais j'ai une toute petite anecdote à ce sujet. Donc mes enfants étaient à l'école et à la Toussaint, c'était une école catholique, et à la Toussaint, on disait qu'il fallait aller fleurir les tombes. Et à 5 ans, mon fils revient me dire « Maman, mais pourquoi on n'a pas été sur la tombe de papa? Il faut aller fleurir les tombes. » Et moi, j'en étais absolument bouleversée. Je me demandais comment j'allais pouvoir présenter cette visite, et j'étais
devenue comme une épreuve pour eux, bien douloureuse,
comme une épreuve pour eux,
et peut-être inutile.
Et inutile, et je me disais, je dois acquiescer à leurs demandes, et donc on va acheter les fleurs, on se rend au cimetière, et j'étais vraiment bouleversée. Je vois mon fils qui rentre et qui commence à courir partout avec sa petite sœur derrière, et au bout de quelques minutes, qui dit. Inès, viens voir. Non seulement j'ai trouvé papa, mais j'ai trouvé grand-père. Et finalement, ça s'est transformé en partie de cache-cache. Et j'ai vu à quel point parler de la mort avec simplicité, avec confiance, a été fondateur dans leur construction.
Parce que eux-mêmes, dans leur petite enfance, vous ont renvoyé un rapport à la mort qui vous a déplacé vous-même.
Complètement, parce que quand ils parlaient à leur qu'est-ce qu'il fait ton papa? Ah, mon papa, moi, il est mort. Comme il est en voyage ou comme voilà. Et j'ai aussi souvenir de quelque chose, d'une parole d'un des deux me disant à un moment donné, alors qu'ils étaient encore très jeunes, il y avait des photos absolument partout de nous deux, et me disant, écoute, ça c'est ton histoire, donc ces photos tu les gardes dans ta chambre, et dans les autres pièces de la maison il faut des photos de nous, parce que nous c'est la vie.
Micheline Clodon, je vais vous faire réagir à un extrait d'un texte qu'on lit beaucoup lors des ce qu'on appelle l'adieu au visage, ce moment très, très important où les proches quittent la personne défunte. C'est un extrait d'un texte d'un dominicain qui s'appelle le Père Sertilange. Vous connaissez cet homme ? Et donc il écrit « On croit que la mort est une absence quand elle est une présence discrète. On croit qu'elle crée une infinie distance alors qu'elle supprime toute distance en ramenant à l'esprit ce qui se localisait dans la chair. » Je vois que vous acquiescez parce que ce texte, vous le connaissez sans doute. Comment aujourd'hui, avec 25 années de distance par rapport au départ de votre époux, comment est-ce que effectivement ou pas, enfin, comment vous vivez cette mutation de la relation de la chair dans l'esprit?
Je vais répondre par un tout petit détour. Quand je suis en présence d'amis en couple qui se disputent pour des futilités, souvent je leur dis maintenant avec beaucoup de j'essaie de gentillesse de leur dire mais ça c'est pas l'essentiel quoi, vous vous disputez pour des futilités, et au fond à ce moment-là je me sens tellement rejointe et tellement en union avec mon mari que finalement ces paroles résonnent très très puissamment en moi, et à chaque fois, souvent que je lis un texte ou une parole, je sens bien, j'ai comme un écho de la façon dont mon mari aurait réagi, et comment ce regard ou cette lecture me donne ce acte de présence de sa part.
Présence dans le quotidien, présence dans les choix.
Présence dans le quotidien. J'en veux pour preuve une lecture très récente. Qu'avons-nous fait de nos talents? Ou comment, je crois que c'était une lecture de dimanche dernier. Et finalement, c'était un thème tellement fréquent de nos discussions, en disant comment on a été traversé par l'esprit pour finalement, lui de sa place de médecin et moi de ma place de psychothérapeute, finalement retransmettre ce don qui nous avait été donné. D'avoir une parole ou des gestes qui soignent l'autre. Et à ces moments-là, je le sens sa présence très, très, très forte auprès de moi.
Micheline Clodon, si on prend un peu de recul, cette fois-ci au-delà de votre expérience de vie singulière par nature, est-ce que vous pensez que notre monde souffre d'une forme d'occultation de la mort, que cette question ne peut pas être évoquée et que cela bloque quelque chose dans la vie des gens ?
Ah, j'en suis convaincue.
De quelle manière alors ?
Eh bien, parce qu'il y a un interdit qui pèse sur la mort, comme si c'était grossier, comme si parler de la mort était quelque chose de grossier. Et finalement, j'ai eu aussi cette expérience à l'hôpital où nombre de patients que j'accompagnais avant de faire que de la dictologie me disaient « Mais il n'y a qu'avec vous, je peux dire que j'ai peur de mourir parce que ma famille me dit que tout va aller bien » et me disait combien c'était accablant de ne pas pouvoir partager cette crainte de la mort, mais aussi de ce qu'on avait envie de laisser. Et je pense vraiment qu'une parole sur la mort est indispensable. Réapprendre à parler de sa propre mort, de celle de ses proches, de celle de comment on l'envisage. Je pense que c'est absolument fondamental, y compris pour les enfants, y compris pour l'éducation des enfants.
Vous avez, vous allez nous le dire, sans doute croisé des regards gêné devant votre deuil. Je disais tout à l'heure, vous étiez veuve, enceinte de votre second enfant. Ça veut dire que physiquement, en vous présentant, déjà vous renvoyez à vos interlocuteurs cette incroyable distance qu'il y a entre l'événement heureux de la grossesse et l'événement dramatique de la séparation.
Alors j'ai à ce sujet un souvenir très, très précis de mon retour à l'hôpital après le deuil de mon mari avant mon départ en congé maternité, où rentrant dans le réfectoire pour prendre le repas, les regards se sont portés puis détournés, comme si en effet vie et mort se côtoyaient et que ça risquait d'être contagieux. Et j'ai en contraste l'accueil que m'avait été fait sur la paroisse, où finalement j'ai senti à ce moment-là, j'ai eu une lecture plus tardive, mais j'ai senti à ce moment-là combien finalement la mort n'était pas quelque chose qui faisait horreur parce que c'était plein d'espoir et d'espérance.
On va revenir pour terminer sur votre expérience professionnelle avec une question peut-être un peu singulière, mais est-ce que vous avez constaté que la perspective de la mort pouvait, chez des patients alcooliques, susciter un élan vers le sevrage ?
C'est pas tant la peur de la mort que l'envie de vivre qui va amener des personnes à se soigner. Et pour qu'elles soient amenées à se soigner, il faut qu'il y ait un regard extérieur plein de bienveillance et de confiance dans la possibilité de la personne de se soigner. C'est à travers le regard de l'autre, le petit autre et le grand autre, que la personne va adhérer aux soins.
Ben Micheline Clodon, merci infiniment. Peut-être un mot de conclusion que vous voudriez adresser à nos auditeurs.
Merci de votre accueil tout d'abord. Et puis n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à lire et à échanger autour de la mort. Merci.
Merci Micheline Clodon.